Les Mistinguettes Roulettes, l'émission qui vous parle des nouvelles technologies sur CFM Rodez.
Donc bienvenue dans les Mistinguettes du Net, donc pour une nouvelle édition. Aujourd'hui, autour de moi, quelques petits chroniqueurs en herbe pour vous parler de l'actualité du numérique, entre autres. Bonjour Théani.
Bonjour.
Tu vas bien?
Oui, très bien, et toi?
Très bien. Nous avons Mister Baptiste.
Oui.
L'homme qui veut pas passer le permis de conduire.
Oui, sauf que là, mon article va parler de voiture, donc c'est un paradoxe.
Tout à fait. Nous avons Lucas.
Ben bonjour.
Salut Lucas. Et Tristan aux manettes.
Salut.
On se retrouve en CFM après cette petite pause musicale. I don't know just how it happened. I let down my guard. Swore I'd never fall in love again. But I fell hard. Guess I should have seen it coming. Caught me by surprise. Wasn't looking where I was going. I fell into your eyes. You came into my crazy world like a cool and cleansing rain. Before I knew what hit me, baby, you were flowing through my veins. I'm addicted to you. Sur les Mistinguettes du Net, sur CFM Radio. Alors, Mistani, est-ce que tu nous as prévu un petit sujet?
Oui, je vais vous parler du bracelet connecté qui lutte contre le cancer.
Ah ouais, carrément.
Donc, il y a Google qui vient de déposer un brevet pour un dispositif médical qui va servir à soigner le cancer avec un bracelet.
Mm-hmm.
Comme Google avait déjà fait plein de trucs pour... il élabore des trucs pour... sur un rapport avec la santé, comme les lentilles de contact pour diabétiques, la cartographie du génome humain... L'élaboration d'une encyclopédie médicale universelle sur l'immortalité, sur la recherche contre le cancer, tout ça. Le bracelet sur lequel travaille l'équipe de Larry Page.
Larry Page, oui.
Larry Page.
C'est un des directeurs, un des présidents de Google.
Serait capable à détruire les cellules cancéreuses présentes dans le sang.
Mm-hmm.
Le bracelet, il fait partie du projet Nanoparticules.
Oresis.
Oui. Mm-hmm. Dans lequel une équipe de chercheurs travaille pour un système, sur un système de destruction de cellules malignes.
Mmh.
Un porte-parole de chez Google, il a expliqué qu'il s'agirait d'un dispositif permanent de cibler, détruit les cellules cancéreuses du système sanguin. Et l'énergie est générée par l'appareil connecté qui est capable de la diriger vers le système vasculaire du porteur de l'appareil. Ciblée pour être modifiée ou détruite de façon à diminuer la propagation du cancer.
D'accord. C'est un projet là, c'est un prototype.
Ben là, je pense que c'est encore un prototype, mais que comme je pense que c'est un prototype encore.
Alors c'est vrai que Google, je sais pas si vous le savez tous, mais Google a vraiment des projets là-dessus sur la santé. Ils avaient fait un portefeuille, le wallet, la spéciale santé. On pouvait y mettre toutes ces données confidentielles sur la santé que les médecins pouvaient aller après consulter. Bon, ça a été un échec.
Mais c'était virtuel ou tu pouvais le tenir dans ta main?
Non, c'était un porte-monnaie virtuel.
Ah, d'accord.
Effectivement. Et il y avait aussi un autre projet qui était, ça s'appelle 1-2-3-et-demi en fait, où en fait on envoyait un exemplaire, par exemple, de salive, et pour moins de $200, on avait un test génétique. Avec les risques qu'on avait sur des maladies, cancer et compagnie. Oui, mon cher Baptiste.
C'est en parlant de Google, ils ont aussi une voiture avec un airbag pour piétons, du coup. C'est pour la santé aussi?
Oui, pour protéger les gens, oui. Enfin, là, on est quand même sur l'intime, là, on est quand même sur ton espérance de vie, oui.
Bah, ça peut rajouter de l'espérance de vie parce que si à chaque fois que je traverse la rue, je me fais écraser.
Ouais.
Ce serait.
Enfin, tu n'es pas la vitesse à laquelle la voiture te heurte, sans doute, mais. Oui, vas-y.
Et donc, en fait, ils ont pas. Ouais, ça ne doit même pas être un prototype, ça doit être une recherche.
Mm-hmm.
Comme ils disent que la technique, elle n'est pas encore définie, mais qu'il y a plusieurs pistes comme, qu'à l'étude, comme les infrarouges, un champ magnétique, des pulsations acoustiques ou des radiofréquences. Il y aura une interaction entre les nanoparticules et le bracelet pour tuer toutes les cellules cancéreuses.
Mm-hmm.
Donc, avant, le patient, il devra absorber des capsules ou un médicament contenant des nanoparticules. Étudié pour se fixer uniquement sur les cellules cancéreuses et consulté par un laboratoire de Google.
Bien sûr.
Et après, le bracelet n'agirait que sur les cellules cancéreuses qui se déplacent dans le sang, sur lesquelles seront fixées les nanoparticules. De cette façon, la propagation de la maladie sera très nettement ralentie, laissant aux médecins plus de temps pour soigner le malade. Il ne s'agit que d'un brevet déposé auprès de World Intellectual Property Organization. Et d'études scientifiques. Mais si le bracelet fonctionnait, ce serait une véritable révolution.
Faut savoir que le... Oui, Baptiste, tu veux dire ?
J'aime bien l'accent, quand même.
Ah, il a pas mal l'accent. Ah, oui. Alors, Larry Page, qui est un des deux fondateurs de Google, c'est un grand fan de tout ce qu'on appelle le transhumanisme, en fait. C'est comment dire, que la science fasse une sorte de surhomme, en fait. Qu'on devienne immortel grâce à la science.
Ce serait bien.
Cool.
Oh, mais voilà. Ce serait pas pour nous encore, je pense.
Non, je pense pas.
Bah, faut voir quand même que Google pèse plusieurs centaines de milliards de dollars, hein. Donc ça aide à avoir ce genre de projet, à les mettre en avant. Mais si, on estime que d'ici 2050, on va arriver quand même à...
Ah, mais c'est bon alors, mais j'aurai 50 ans.
J'avais lu un truc où il disait en 2050 à peu près, alors je sais pas si c'est les gens qui naissent en 2050 ou si c'est en 2050, mais en 2050 à peu près, on aura une espérance de vie vachement plus élevée qu'actuellement. C'est...
Oui, ouais. Sur 10 personnes, normalement 7, ils auront plus de 70 ans.
Ah oui. Vous la connaissez à l'heure actuelle, l'espérance de vie en France ?
Pas du tout.
Oui. Ah. C'est pas pour les femmes 85 et pour les hommes 80 ?
Ouais, à peu près 86, je crois. 86, c'est des poussières pour les femmes et un peu moins pour les mecs. Ouais. Donc, bientôt peut-être.
Qu'est-ce qu'ils ont, les mecs, franchement ?
Allez.
Bah, ils mettent pas de airbag ou ils marchent à la rue sans airbag. Tu veux nous raconter ton airbag en voiture ?
Oui.
Allez.
C'est Google. Il imagine.
Non !
Si !
C'est plus qu'un moteur de recherche.
Il a imaginé un airbag pour piétons sur ses voitures automatiques. Donc, imaginez la Google Car qui a été équipée d'airbag extérieur. C'est une piste qui est étudiée par l'entreprise américaine puisqu'elle a déposé un brevet en ce sens en septembre 2013. Et le Bureau américain des brevets et des marques du commerce, c'est le USPTO, vient justement de valider cette semaine. Comme le remarque le site Quartz, le principe d'une voiture équipée d'airbag extérieur a été introduit pour la première fois par Volvo en 2012, après sa berline V40. En cas de choc frontal avec un piéton, le capot du véhicule, ben, il s'ouvre un peu et il y a des airbags qui se gonflent. Et comme ça, le piéton est protégé.
Un peu plus. Il n'est pas protégé entièrement, je pense.
C'est déjà mieux que rien,
oui,
on va dire.
Oui.
L'airbag, ça couvrira une partie du pare-brise et il se déclenche entre des vitesses comprises entre 20 et 50 km/h pour le choc.
D'accord. Et à votre avis, là, pourquoi Google dépose ce genre de brevet là ? Pourquoi ?
À cause de sa voiture.
Ouais, mais pourquoi ?
Pour l'espérance de vie, comme il y a beaucoup d'accidents aussi. Il y a des gens qui meurent beaucoup avec des
accidents. Parce que sa voiture ne pourra pas être commercialisée s'il y a trop d'accidents avec les piétons.
Ouais. C'est surtout que
pour rassurer les.
Ah oui, c'est pour la voiture qui se pilote automatiquement là.
Exactement.
C'est au cas où la voiture fait pour pour protéger les gens.
C'est surtout que si vous êtes dans une voiture automatique, si elle heurte.
On peut porter plainte, non?
C'est surtout Google qui va se retrouver à attaquer en plein procès. Ouais. Alors comme étant des airbags, il réduit le
risque. Ils disent on a essayé.
Ah, surtout c'est que il n'y aura pas de blessés ou il y aura moins de morts.
Et ça serait commercialisé d'ici 5 ans. Donc voilà. Par contre, des défaillances peuvent survenir lors d'un trajet effectué par l'ordinateur de bord. Il est donc indispensable de prévoir ce type d'événement et de trouver des solutions pour atténuer les conséquences.
Ah, c'est pour éviter les procès à la suite aux États-Unis, quoi.
Parce qu'après, toutes les amendes qu'ils auront, franchement...
Ah ouais, tu te jettes sur une voiture Google.
La nouvelle technique pour se faire de l'argent.
D'où les airbags.
Ah, c'est pareil, en Russie, il y avait des gens, ils faisaient ça, c'est pour ça qu'ils ont mis les petites caméras dans les voitures.
Ah, les dashcams. Ouais. Grâce à ça, on peut voir les météorites maintenant qu'il y en a.
Ah oui. On peut voir, par exemple, un avion qui s'est écrasé sur un pont en Russie, ils avaient filmé avec la dashcam.
Oui, tout à fait. À Singapour aussi. Lucas, une petite info.
Oui, je vais vous parler de Disney. Ah. Je vais vous parler de Disney qui...
Oh, c'est trop bien Disney.
C'est quoi ça?
Elle retombe en enfance, ça y est. Donc je vais vous parler d'un bracelet connecté de Disney.
Ah bah toi aussi, tiens, dis donc, vous êtes bracelet quoi.
Ouais, voilà. Donc c'est pas un bracelet comme les autres. C'est pas un bracelet comme les autres, puisque, comme je viens de le dire, c'est par Disney. Donc c'est...
Le bracelet Disney.
C'est le bracelet connecté. Donc comme vous le savez, de nombreuses firmes se sont lancées dans les bracelets éléments connectés. On en avait parlé il y a pas longtemps de la Watch d'Apple. Et plusieurs autres multinationales. Et bien Disney s'y est lancé il y a peu avec pour budget 1 million de dollars. Ce qui est pas mal. Et ça peut paraître étrange au premier abord, mais l'idée est plutôt sympa puisque ce bracelet permettrait aux visiteurs du parc Disney World, donc à Orlando, malheureusement pas en France, d'ouvrir par exemple la porte de sa chambre à l'hôtel, de passer une commande avant son arrivée au restaurant, de payer ses achats ou encore d'être localisé à travers le parc par l'équipe Disney World. Donc en fait, ce bracelet, il regroupe pas mal de fonctionnalités qui étaient présentes sur les applications Disney. Ils en avaient sorti pour les mêmes raisons. Mais je trouve que ce serait bien qu'ils lancent ça dans les parcs partout dans le monde, parce qu'à Orlando, moi j'irai jamais à Disney World en Orlando, je pense. Donc,
c'est où, c'est Orlando? Orlando,
c'est en Amérique.
Floride. C'est en Floride, ouais.
C'est en Amérique.
Oui,
mais c'est en... Du Sud.
Oui, enfin, entre... pas loin, entre, vers le mer, enfin...
À côté de la Guyane.
Non, Amérique du Nord.
Ah.
Un peu sur des petites îles du...
Ouais. C'est au sud des États-Unis.
Bon, et donc... moi je pense aussi qu'il pourrait y ajouter, parce que ça y est pas encore, des fonctionnalités comme les horaires des spectacles, ou les temps d'attente aussi, parce que c'est très long.
Ouais, je crois qu'il y en a un à Paris, c'est ça, hein?
Ouais, il y en a un à Paris, ouais.
Si on pouvait gratuitement, t'aurais le bracelet connecté, ça t'intéresserait?
Ouais, ça m'intéresserait.
Gratuitement,
pas mal,
oui.
Gratuitement, ouais. Et il disait que c'était vingtaine de dollars, je pense, il me semble, pour avoir le bracelet, quoi. Et ceux qui ont l'abonnement à l'année, ils l'ont gratuitement.
D'accord. À l'année, il y a des gens qui vont toute l'année à Disneyland.
Non, mais ils prennent à l'année pour pouvoir y revenir quand ils veulent.
Et tu vois que des points positifs sur ce dispositif-là?
Non, après c'est...
Je sais pas, question innocente.
Je sais pas, question.
C'est toujours des ondes en plus, non? Comme...
Oui.
Oui, mais le gros point c'est quoi?
C'est la géolocalisation, je pense.
En temps réel?
Ouais.
Si tu perds ton enfant, par exemple, et qu'il a le bracelet, tu fais oui, allô. ça peut servir, je sais pas.
Mais surtout, d'un point de vue marketing, c'est quoi l'avantage de pouvoir...
Le fric.
Non, mais...
Les pubs!
De poursuivre les habitudes de tous les consommateurs, mais de tous les visiteurs.
Après, je sais pas s'il est utile en dehors du parc ou s'il est juste.
Même à l'intérieur du parc, on sait tout ce que tu vas faire. Quelles attractions, le temps que tu vas y passer, dans quel restaurant tu vas aller manger.
Oui, mais ça, à la limite.
Ça te dérange pas?
C'est pas trop personnel.
Ouais, c'est pas trop personnel.
C'est pas trop personnel.
Ouais, justement.
Mais c'est juste par des attractions.
Ouais, je vois.
Non, parce que tu vas avoir du coup plein de pubs qui seront liées à tout ce que toi t'as fait. Tout ce que t'as pu faire.
En fait, ils se font de l'argent grâce à ça.
Par exemple, si t'aimes les émotions fortes à travers telle animation, la pub que tu vas recevoir dans ton hôtel, ce sera une pub qui sera ciblée par rapport à ton attraction, par exemple.
Ouais.
Je l'avais dit, les sous.
Oui, mais faut expliquer comment les sous.
Il y a des gens qui sont payés pour réfléchir à ça.
Non, il y a des gens qui veulent vous faire de la publicité et pour plus vous donner d'informations sur vous, plus, derrière, il y a des publicitaires qui vont vouloir payer pour accéder à ces informations-là.
D'ailleurs, il y a Google, il me semble, Google, qui a essayé, enfin, qui a ajouté des codes dans ses pages, je crois, et, pour tracer justement, pour passer la sécurité des navigateurs. Pour avoir les pubs. Mais, enfin, pour avoir les informations pour faire des pubs.
Mais à l'heure actuelle, n'importe quel internaute qui va sur un site web, le webmaster du site peut savoir quand il est resté sur le site, quelle page il a visité, où il est après la visite du site. Donc là, c'est après, ça devient du temps réel, quoi, sur des... Ouais. Moi, je suis pas hyper fan, hein, sincèrement, de ces bracelets connectés, là. Ouais. Tout ça pour savoir que... pour ouvrir ma porte de chambre.
Maintenant. Ouais, voilà. C'est pas faux.
Savoir qu'il reste une demi-heure d'attente avant de faire l'attraction vedette.
Ouais. Après, ça peut être pratique si t'es à l'autre bout du parc. Savoir le temps d'attente, ça peut être pratique. Mais bon, après, ouais, c'est sûr que...
Comme ça, tu te dis, je suis à l'autre bout du parc, je mets une demi-heure. Ah, oh, mais c'est bon, il reste une demi-heure d'attente, j'y vais. Ouais,
mais payer pour être fliqué, je trouve ça très bien.
Oui.
Ça, c'est...
c'est vrai que vu comme ça...
T'auras forcément des avantages. Hein. Ouais. T'auras,
c'est les
surveillants forcément.
Des collèges. Ils sont payés pour cliquer.
Ouais, mais encore, c'est animé.
Attends.
Qu'insinuez-vous?
Une petite pause et on se retrouve en CFM.
Ouais.
À tout de suite.
À tout de suite.
I was on a heavy tip, trying to cross a canyon with a broken limb. You were on the other side, like always, wondering what to do with life. I'd already had a sip, so I reasoned I was drunk enough to deal with it. You were on the other side, like always, you could never make your mind. And with one kiss, you inspired a fire out of an ocean that lasts for 20 years. What kind of man loves like this?
Donc, je vais vous parler de la tablette. Donc, il y a un nouveau programme d'enseignement à l'école maternelle. À la fin de la grande section, les enfants devront avoir une connaissance basique de quelques appareils comme l'ordinateur, la tablette et l'appareil photo.
Attends, en grande section ?
Fin grande section, ils devront savoir les trucs basiques.
D'accord.
Déjà qu'ils devaient apprendre à écrire, à lire.
Et à être propre.
Mais il y en a qui ont des...
Il y
en a qui ont des difficultés.
Ah, c'est vrai que la tablette sur le pot, c'est le pire.
Le pot numérique. Bah, Guillaume.
Quoi de mieux, quoi.
Maintenant, il faudra que les enfants aient une connaissance basique.
Attends, c'est un programme de l'éducation nationale ou c'est...
Oui, l'éducation nationale.
C'est la blague bimba, là. Déjà que j'étais pas... Enfin, voilà, quoi.
D'après le nouveau programme d'enseignement dévoilé ce jeudi dernier...
C'est au Canada, ça, non? C'est en France. D'accord.
Et remarqué par Next Impact, il demandait aux enseignants de faire découvrir certains objets numériques, donc l'ordinateur, l'appareil photo, et de savoir les utiliser un minimum. L'éducation nationale explique cette évolution par le fait que les enfants bas âge sont d'ores et déjà confrontés à ces appareils. Dès lors, autant les accompagner dans cette phase de découverte. On imagine que celle-ci sera ensuite complétée par un enseignant plus poussé dans les classes supérieures, écoles primaires, collèges, lycées, par des cours sur l'informatique et Internet. Donc, dès leur plus jeune âge, les enfants sont en contact avec les nouvelles technologies. Le rôle de l'école est de leur donner des repères pour en comprendre l'utilité et commencer à les utiliser de manière adaptée. Des recherches ciblées via le réseau Internet sont effectuées et commentées par l'enseignant. C'est ce qui a marqué ça dans le programme de l'école maternelle. Dans ce cadre, et selon l'âge des élèves, certains usages pourraient être faits, comme naviguer sur le web, chercher des informations. Des concepts comme Internet pourront être aussi évoqués. L'enseignant évoque avec les enfants l'idée d'un monde en réseau qui peut permettre de parler à d'autres personnes, parfois très éloignées, poursuit le document.
Après, il y a les dangers d'Internet qu'il faudrait faire, et après, ça fera des ondes en plus avec le Wi-Fi, tout. Après, ma mère, elle me dit 30 minutes, c'est conseillé par jour d'écran. Alors si généralement tout le monde a une tablette chez eux, enfin pas tout le monde, mais généralement, si déjà les enfants à l'école, ils font plein d'écran toute la journée, plein d'écran le soir. Après, au bout d'un moment, leur tête est
bête. Et puis, je sais pas, au maternel, c'est vraiment tôt quand même.
En maternel, je savais pas que ça existait.
Mais moi, en maternel, j'étais sur le coloriage, je sais pas, non. On écrire quand même.
Il faut une cyber...
Que déjà, cyber... moi, quand j'étais en maternelle, la maîtresse le matin, quand...
Ça existait pas les tablettes aux années 2000, hein.
mais elle nous laissait juste au moins déjà faire des jeux à l'ordinateur.
Ouais, voilà.
Comme Adibou.
On avait Adibou.
Normalement, il est recommandé quand même d'avoir un certain âge pour tout ce qui est tablette et compagnie, de pas commencer dès l'âge de 3 ans. Quoi,
c'est un truc, c'est impressionnant.
Bah après, des fois, je vois bien des fois au restaurant, des enfants de genre de 3 ans, avec le Samsung Galaxy S5 de leurs parents en train de jouer à des jeux.
C'est pour attendre.
J'avais vu un truc, c'était le comble. C'était un enfant de 4 ans au bowling, il jouait à un jeu de bowling. Au bowling, il jouait, mais il avait 4 ans. Je trouvais ça bizarre.
Je suis au bowling.
Je joue au bowling.
J'ai la possibilité de jouer au bowling. Mais je joue au bowling sur mon téléphone.
Ouais, je trouvais ça vraiment bizarre. Puis c'était le tout. C'était à l'époque, c'était l'iPad Air qui venait de sortir.
À l'époque,
moment quand même.
T'es si vieux que ça?
Et au niveau de vos pratiques, Lucas, Baptiste, Annie, vous avez appris à utiliser. C'est qui vous a appris à utiliser par exemple l'ordinateur?
Ma maman.
Moi tout seul aussi.
Tout seul.
Ouais.
J'appuie sur tous les
touches. Non, l'école primaire, peut-être.
Tout ce qui était clic gauche, clic droit, faire des recherches.
T'appuies sur toutes les touches, c'est bon, tu trouves.
Vous avez appris par vous-même, quoi.
Oui.
Oui.
Et la tablette, pareil.
Oui.
Ben, la tablette, je l'ai eue en 5e ou 4e, donc tu sais quand même l'utiliser.
Oui, l'utiliser. Enfin, il y a une différence entre paramétrer et utiliser, mais
oui.
Vous n'êtes pas trop pour. Je trouve que c'est un peu jeune déjà.
Je trouve que c'est un peu jeune après.
Après en parler, commencer à approfondir le sujet en CM2, 6e. Après oui, parce que t'es plus grand. Alors que après sinon les petits ils vont prendre des habitudes très tôt, jouer à la tablette, jouer à la
après, tablette. Après rien que je vois nous au primaire, à partir du CE2, CM1, je crois on l'arrête en CM2. Ils nous faisaient faire juste, enfin c'est même pas vraiment internet, comme c'était sur un site, je sais plus ce que c'était.
Sécurisé.
Non mais sur un site en fait on devait c'était des niveaux pour
B2I.
Voilà, c'est ça.
Ouais, mais ça, c'est, ça s'est fait exprès.
Voilà, c'est ça.
Il y a encore le B2I. Hein. Encore
oui, ça existe.
Après, j'ai jamais appris Internet trop. Non. Enfin.
Ouais, vous avez appris par vous-même, quoi.
Ouais.
Dans, voilà. Dans 10 ans, on va avoir des, dans les écoles privées, des cours Apple. Je vois
bien de les dire, mais des sponsorisés par Apple.
Yes, Baptiste, ta mère te dit une demi-heure d'écran par jour.
Enfin, elle me dit c'est conseillé, mais après, sinon je. Oui,
quand tu dis conseillé, c'est pas plus d'une demi-heure, non? Parce que.
Tu les respectes pas?
Oui.
Tu respectes pas?
Mais non,
conseil.
Mais fait, c'est pas ça, mais c'est que.
Ouais,
si je joue
une
pas
demi-heure,
tous les
c'est
soirs.
Tendu quand même.
Mais c'est que je joue pas tous les soirs non plus.
D'accord. Ouais,
moi non plus.
Vous jouez, ouais, y en a qu'un qui joue tous les soirs, quoi? Non.
Non, non, moi.
Pas, même pendant les vacances, vous.
Ah,
pendant,
si,
les,
pendant
vacances,
les vacances.
Pendant les vacances, même pas tous les soirs. De temps
moi,
en temps.
Au contraire, pendant les vacances, c'est ce que j'utilise le moins, ces trucs. Comme le soir, je dors déjà.
Ouais, c'est
bien. Ça dépend où je suis pendant les vacances, parce que des fois quand je suis tout seul ici, franchement, je joue à la tablette.
Voilà, ouais.
Des fois quand je suis chez mes grands-parents, je joue à la tablette.
Or, que discuter avec les grands-parents, c'est bien aussi.
Ouais.
Et les.
Oh non, c'est. Mais moi,
bonjour,
moi, je
Club Troisième Âge. Vous savez ce que c'est? C'est une tablette. Des chocolats.
Et les dangers d'Internet, Baptiste?
Oui.
On t'en a déjà parlé à l'école ou au collège?
Oui.
Ah ouais?
Oui.
D'accord. C'était bien?
Oui. C'était des jeux.
Nous, on faisait des exercices, je me rappelle, en CM2. Sur, non, sur l'ordi. Ouais. Et à chaque fois qu'on y allait, la prof, pendant 10 minutes, mais enfin, je critique, mais en fait, c'était utile, mais pendant 10 minutes, elle faisait exactement le même discours tout le temps, et elle racontait le même discours. Elle racontait que Internet c'était dangereux, qu'il fallait pas aller sur d'autres sites qu'elle ne conseillait pas, enfin, voilà, comme des trucs comme ça. C'est vrai que c'est, maintenant je me rends compte que c'était un peu, utile quand même. Ouais. À l'époque, je me disais, ouais, on s'en fout et tout. Ouais. Mais maintenant, c'est vrai que c'est un peu.
Et il y a des romans, des sites pour lesquels, voilà, c'est oui. Pas fait pour les moins de 18 ans. Et toi, Tani?
De quoi?
Les dangers d'Internet.
Oui.
Discuter avec des inconnus, les arnaques du net.
Ah,
bah
ça,
net,
je le fais même pas, hein.
L'usurpation d'identité.
C'est quoi?
C'est des gens qui se font passer
quand
pour toi.
Quand tu piques ton identité.
Quand te volent toutes tes infos pour créer notre compte à ta place et que tu vas avoir des problèmes à cause de ça.
Ah non, ah non, ça peut jamais arriver.
Il y a plein de gens qui ont des soucis avec ça.
Ah, moi, ça m'est jamais arrivé.
Ah, trop.
C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir Facebook trop tôt.
Entre autres. Ou de ne pas donner trop d'informations non plus.
Oui, voilà.
Bonjour, je m'appelle. Tu dis plein d'autres noms, plutôt.
Ouais, il vaut mieux se créer un compte Facebook complètement bidon. Ouais. Tu utilises un pseudo, tu utilises tout. Il faut surtout pas. Même les photos que tu mets, il faut faire gaffe. Parce qu'il peut.
Tu les photoshop.
On peut s'en servir. Dans tous les cas, on peut s'en servir. Donc, bon.
Ouais. Ouais. Si vous voulez, à Cyberbase, j'ai une feuille comme ça qui récapitule tous les 10 conseils de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, des bons petits conseils sur faire attention aux mots de passe, faire attention à ce qu'on dit sur les forums aussi. Ouais, bon petit sujet, Tani. À vérifier quand même cette histoire de grande section, surtout l'appareil photo, je vois bien.
C'est louche.
T'as quoi, papa? Ouais. Ah, 8 mégapixels, ouais, quand même.
<C'est vrai.
rire> Un peu la honte.
Pas mal.
Baptiste.
Pourquoi on me regarde comme ça d'un coup?
Parce que c'est à toi.
Alors, je vais vous parler de l'aéromobile, une voiture volante dès 2017. Donc, c'est
elle est trop
proche.
Belle.
2017.
Ouais, elle est trop belle.
Ah, si vous voulez voir la vidéo de lancement, vous allez sur YouTube, vous marquez aéromobile 0.3 et vous voyez la vidéo. Bon,
pas 3.0, 0.3.
0.3.
D'accord.
En plus, elle vole haut.
C'est un petit avion. Bon, alors, j'aimerais bien vous expliquer. N'est-ce pas, Tani? Alors, la voiture de demain serait autonome. Eh bien, elle serait un avion et une voiture en même temps.
Carrément.
Le nom.
Carrément.
Ça, c'est vrai, ça ressemblait vraiment à un avion.
Eh bien, alors, Aéromobile a déjà testé sa voiture.
Ah, c'est bien.
Il y a la vidéo où on la voit. Donc, le prototype fonctionne.
Elle sort d'une maison, c'est ça? Et elle s'envole, c'est ça, après?
Ouais. Eh bien alors, il a testé sa voiture volante en 2014. Mmh. En 2014. Elle roule et elle vole vraiment. Donc pour l'instant, elle a encore besoin d'un pilote. Mais celui-ci pourrait devenir inutile d'ici une dizaine d'années.
Avec des airbags, c'est ça, pour éviter
les
pigeons. Pour éviter les pigeons.
Pas besoin d'aéroport et fini les embouteillages. Appelez votre avion et où voulez-vous aller? Qui n'a pas rêvé de transformer sa voiture en petit avion pour survoler les embouteillages? Perso,
c'est pour retrouver des embouteillages en l'air.
Ouais,
bon.
Ouais.
En fait, si tout le monde survole les embouteillages, il n'y aura plus d'embouteillages.
Donc tout le monde va par terre, voilà.
Et ça, en fait, ça fait.
Alors, ben, Aéromobile est allé au bout de ce rêve en créant la voiture volante Aéromobile 0.3. Donc, nous vous avions parlé il y a... Non, ça c'est pas moi.
Oh, le copier-coller.
Après ce petit fou rire, nous continuons. Alors, cette voiture-avion aborde un look futuriste avec son hélice, ses petits trous à l'arrière et ses pneus classiques à l'avant. Son cockpit d'avion et ses ailes rétractables. Mm-hmm. Le PDG d'Aéromobile l'a décrit comme une Ferrari avec des ailes et a annoncé sa commercialisation pour 2017.
Ah.
Le prix, ça serait entre une voiture de luxe et un petit avion quand même.
Ah oui.
C'est pas tout le monde qui va pouvoir s'envoyer en l'air de bon matin, quoi.
Oui, mais voilà. Oui,
Baptiste.
Oui.
Et la voiture et tu sais pas quand l'avion la voiture avion la voiture avion automatique quand elle sortira et... comme ça tu pourras ne pas passer le permis peut-être.
Ah non, alors attends, je vais, ben normalement la vraie elle devrait être sortie en 2017. Bon, en 2017 je sais pas si j'aurai le permis.
Non, c'est dans 2 ans a priori. C'est en 6e thème.
Alors
il va falloir travailler pour cela.
C'est déjà bon. Alors cette voiture profite de cette techno. Bon, elle pourrait être automatique pour le décollage et l'atterrissage.
Vaut mieux.
Elle profite de cette. Surtout qu'il y a eu l'accident il n'y a pas longtemps.
Mm-hmm. Ouais.
Donc, elle profiterait de cette technologie et elle pourrait devenir totalement autonome d'ici une dizaine d'années, donc aux alentours de 2027. Donc là, je pense que.
Tu auras le permis ?
Oui, et aussi j'aurai eu le temps d'accumuler la fortune pour l'acheter.
Ouais, alors... tu auras tous tes points.
Ouais, bien sûr.
Cette hybride a actuellement une autonomie d'environ 3 heures de vol et un système de sécurité permanent. Donc voilà, il y a un parachute qui s'ouvre directement.
Rassurant.
Oui, il n'y a pas besoin d'aéroport parce que une piste de 200 mètres seulement suffit. Donc c'est relativement court pour.
Ça vous plairait, vous, tous les trois, là, d'avoir une petite voiture,
ouais, mais
de
ça...
vous envoler pour aller au boulot et de revenir?
Oui, oui, ouais. Plutôt, ouais.
Je pense que tout le monde s'en est aperçu. Aéromobile, c'est la contraction des deux mots aéromobile et automobile.
Non.
Si. Alors, le transport, enfin, le président a déclaré à Vienne que le véhicule du futur est désormais très proche et que... il pourrait changer le transport personnel à l'échelle mondiale, ouais, en créant une réponse à la prison des embouteillages.
C'est la prison des embouteillages, c'est plutôt vrai d'ailleurs.
Le concepteur, c'est Stefan Klein. Grâce à ses ailes rétractables et son faible centre de gravité, l'aéromobile 250 mètres pardon de piste aura besoin de 250 mètres de piste pour décoller. Elle pourrait atterrir sur des étendues de pelouse ou même des terres agricoles, pratique pour le citadin automobiliste et surtout quand il va à la campagne. Mmh. Tranquille. Et surtout qu'il y aura beaucoup plus d'espace vierge dans longtemps, enfin en 2000 et quelques, dans un peu longtemps, parce que 7 personnes sur 10 vivraient en ville.
Ah oui, donc tu pourrais, oui.
Ouais.
Donc il y aurait des, oui.
Par contre, le pilote devra avoir un permis de conduire, donc c'est un permis de conduire de pilote.
Ouais.
Alors,
il faudra passer un brevet de vol, je parie.
Ouais, je parie.
Ouais, comme un permis de voiture normale.
Et la taille, moi, c'est la taille qui m'intéresse du véhicule.
Oui, ça y est, j'arrive. Alors, l'avion est déjà homologué pour la route, donc on peut rouler déjà avec sans voler. L'engin biplace tiendra dans une place de stationnement. On émet toutefois des réserves, sachant que la longueur d'un emplacement standard mesure 5 mètres fois 2,5 mètres. Lucas adore les calculs, donc il va nous calculer.
Absolument.
Et que l'aéromobile mesure 6 mètres de long.
Ah, d'accord.
Voilà. Mais sur la vidéo, pourtant, elle paraissait moins grande quand même.
Si, parce qu'à un moment, elle est sur la route, elle roule, et on voit la voiture à côté, donc... elle fonctionne grâce à un moteur à essence, donc c'est un peu pollué encore. Elle n'est pas encore électrique. Elle a une autonomie de 875 km. L'aéromobile en l'air, elle a une autonomie de 4 heures de vol, soit environ 700 km. Et sa date de commercialisation est encore inconnue précisément, mais ça serait vers 2017. Et il doit encore passer quelques tests. Mmh. Et son prix non plus, mais ça doit se situer entre les tarifs d'une voiture de luxe et ceux d'un petit.
D'accord.
Mais on a vu la vidéo, la voiture elle est trop design.
Yeah.
Il y a des photos sur. Vous tapez aéromobile et il y a plein de photos.
On postera la vidéo sur la page Facebook. Les souris ne mordent pas comme ça.
Attention, danger d'internet sur Facebook.
Ouais.
Ça ferait de la
On en parle régulièrement des dangers d'internet.
C'est vrai.
Lucas, un petit article avant la.
Eh bien ouais, je vais vous parler de la NASA qui a déclaré récemment que sa mission Asteroid Redirect Mission, donc vous remarquez que j'ai un accent anglais très joli, changeait de cap, et que dès 2020, celle-ci partirait en quête d'un rocher, après lever sur un astéroïde plutôt que de devoir tracter l'astéroïde comme ils avaient dit à la base. Donc la mission ARM, qui c'est plus court, a donc été revue à la baisse à la NASA. Apparemment, c'est moins ça leur coûte vachement moins cher, c'est plutôt normal. Et à l'origine de ce projet, l'objectif n'était pas de tracter un rocher avec un vaisseau automatique jusqu'à le mettre en orbite, mais en orbite lunaire plutôt. Mais il s'agissait de le faire avec un astéroïde entier. Toutefois, il s'avère qu'une roche ouais, de 4 mètres environ suffirait aux besoins de la mission.
Ouais, 4 mètres, ouais. Ça.
Pas mal.
On peut analyser des trucs sur 4 mètres, je pense.
Cette mission n'a pas but de se promener dans l'espace et de s'amuser avec un bout d'astéroïde qu'on irait placer autour de la Lune, mais la NASA travaille actuellement à découvrir comment protéger la Terre des astéroïdes en cas de collision qui ont été annoncés apparemment. C'est pourquoi elle souhaiterait tracter un astéroïde afin de le passer en orbite lunaire et ainsi pouvoir l'étudier et trouver des solutions contre les astéroïdes qui pourraient menacer la Terre. Et un morceau seulement sera prélevé sur un des 3 astéroïdes sélectionnés, donc avec des noms très bizarres, Itokawa, Bennu et 2008 EV5. Donc le dernier étant le favori actuellement. La décision sera prise en 2019. Pour ce qui est de la protection de la Terre et des astéroïdes, une possibilité a d'ailleurs été évoquée par le Centre de Recherche Spatiale américain. Celle-ci consiste à détourner un astéroïde avec un vaisseau automatique, sans le toucher, avec la pression qu'exerce tout objet dans l'espace. Les scientifiques espère que le vaisseau arrivera à faire dévier l'astéroïde, donc sans le toucher, ça va être.
Avec la déflagration.
T'as compris à quelque chose de ce que tu viens de dire?
Oui, oui, pourquoi? T'as pas compris?
Oui, je comprends pas que parce que dans l'espace, normalement, il n'y a pas d'air, donc comment ça c'est censé la repousser sans la toucher? Enfin, il n'y a pas d'air. Donc.
Il y avait la déflagration.
Quoi?
La pression, comme il vient de dire en fait.
Mais s'il n'y a pas d'air!
Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas d'air qu'il n'y a pas de pression.
Bah, si tu vis, bon, je demanderai à mon prof de techno.
donc pour en revenir à ce que je disais, ce sera avec un vaisseau automatique sans le toucher. Le début de la mission est prévu en 2020. Le prélèvement est prévu en 2022 et la mise en orbite se fera en 2024. Donc sur 4 ans. Et par la suite, la NASA devrait envoyer 2 astronautes à bord d'une capsule Orion afin d'y effectuer les prélèvements nécessaires et les ramener sur Terre.
Ok, donc on va étudier, je résume, on va étudier un astéroïde, et ils vont plutôt que de l'arrimer, on va dire, ils vont y aller dessus.
Voilà.
Pour l'étudier, pour après pouvoir, pour défendre la Terre des gros astéroïdes, pouvoir les faire dévier de leur course en sachant leur composition.
Voilà, c'est ça.
C'est clair pour toi, Baptiste ?
Dis oui, s'il te plaît, ça serait gentil.
Oui, d'accord. Je chercherai, je me renseigne.
Super.
Je me renseigne.
Bon, je te laisse y réfléchir pendant la petite pause musicale et on se retrouve après en CFM.
The garden was blessed by the gods of me and you. We had a wish for to find ourselves some truth. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? We counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down. We'll
outside the blossom, caught in the carnival. Your confidence forgotten, I see the gypsies roll. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it on me. When I lose control and the veil's overused, blame it on me. What you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it on me. When I lose control and the veil's overused, blame it on me.
Encore dans les Mistinga Ginette. Donc je vais vous parler de du mot Noël.
Oui. Donc ça se mange ?
Non.
Ah.
Donc en matière de déplacements urbains, il y a une innovation révolutionnaire.
Ah.
qui vient de voir le jour grâce à l'ingéniosité de quatre données. Donc le mot Noël, c'est un monocycle entièrement électrique. Qui a tout pour devenir le moyen de locomotion le plus utilisé dans le futur, en ville dans le futur.
D'accord, c'est quoi alors ?
Donc, en fait, c'est un concept inspiré du Segway. Mm-hmm. Du Segway.
Tout le monde sait ce que c'est que le Segway ?
Oui, c'est une sorte de petit... c'est une sorte de...
C'est une
c'est une sorte de monocycle, sauf qu'il y a deux roues, c'est un truc automatique.
C'est une trottinette où t'as les deux pieds collés et t'avances comme ça.
Tani n'a pas l'air d'accord avec ce que j'ai dit.
T'avances en t'avançant, c'est pas un monocycle.
Oui, ah non, y a pas le truc pour se tenir là. Ah, c'est le truc sans truc pour se tenir. Ah non, y a le truc pour se tenir ou pas?
Oui, il y a un truc pour
se
tenir.
Ah, mais oui, alors je vois ce que c'est. Il y en a plein à Paris.
Le truc s'appelle un guidon, je crois.
Donc c'est un concept né aux États-Unis, le ça.
Dont le fondateur d'ailleurs est à Paris, hein, faut le dire. Le Segway, ouais. Lui fut fatal.
Quoi?
Le fondateur du Segway est mort sur du Segway.
Ouais, voilà, oui. C'est ça que j'avais entendu. Ah, ouais, d'accord.
Ouais, ça j'ai appris ça aussi.
Ouais, ouais.
Là c'est quand même.
Ah, il s'est fait écraser par une voiture.
Non. Sans airbag en plus. Non, il a eu un accident de Segway, je me rappelle plus trop quoi, mais ouais, il est décédé. L'an dernier, je crois. Vas-y.
Et donc, c'est un concept très répandu en Asie, en Chine. Et donc, c'est lors d'un voyage sur ces terres que Cyril Barrios, l'un des créateurs, a compris l'importance de ce marché. Donc, il trouvait que le modèle de base n'était pas trop abouti encore. Donc lui et ses trois copains, ils ont conçu un modèle beaucoup plus performant et plus sophistiqué pour le marché européen. Donc le mot Noël est donc né et vise maintenant à séduire la population urbaine.
Alors c'est quoi alors ? Ça ressemble comme le Segway, mais c'est pas le Segway.
T'as
une petite photo, ça va aider les auditeurs.
Ah mais je vois ce que c'est. Mais c'est vieux ce truc.
Non.
Et là, c'est une sorte de.
Alors, pour aider l'auditeur, n'est-ce pas, qui est en train de se dire super, oui. C'est une petite roue, on va dire, voilà. Et on met les pieds de deux côtés de la roue. Voilà.
Y a plein de. Enfin, c'est vieux ça quand même. C'est pas.
Non, mais il y a peut-être des améliorations.
T'es en sixième, donc vieux.
C'est pas ancien, c'est pas tout nouveau. Voilà.
On en parlait déjà dans la cour en CM2, tu vois là.
Et donc, le mot Noël, c'est un moyen de locomotion totalement écologique. C'est un monocycle 100% électrique. Qui n'est pas sans rappeler le concept Rhino. Donc, il se présente sous la forme d'une simple roue sans guidon ni poignée. Et il se conduit grâce à l'inclinaison du corps de l'utilisateur, comme le Segway. Et donc il y a deux trépieds sur les côtés pour y mettre les pieds. Et le travail est entièrement réalisé par une petite carte électronique qui calcule le degré d'inclinaison pour éviter la chute.
Moi, je crois que j'avais vu le projet américain de ce projet-là, enfin la version américaine de ce projet.
C'est ouais. Français.
Mais c'est pour ça qu'il y a une version américaine aussi. Je
donc
pense.
Sa roue gyroscopique.
Gyroscopie. Hein.
Auto-stabilisée et sa batterie offre une bonne économie sur une distance d'environ 20 km. Mais également une grande aisance pour se déplacer, même dans une ville très peuplée.
Alors, la question fatale version Rhodes. La pente. De ce que j'ai vu, moi, il dépassait pas. Il dépassait pas 5%. Et je me dis super. Mais, vas-y.
Ah, je sais pas, j'ai pas.
Super ouais, mais... pour Rubetteil.
Ouais, si t'arrives pas à faire du 8% ou un peu plus. C'est pas marqué dans l'article.
Non, il y a le poids, le ouais. Nombre de kilomètres heure, là, le prix.
Parce que si t'as des pentes que t'arrives
le prix.
Pas.
Ouais. 500 ouais. euros.
Quoi 500 euros
Le Segway, il a 1000 euros.
Putain, ah, je préfère 500.
C'est bien.
500 euros la route, ça va. Hein.
Bah, tranquille.
Ça. Et donc, il pèse 10 kilos, moins de 10 kilos, et il se déplace à 18 km heure, là, pour l'instant.
Donc, pour les gens de Rodez, vous pourrez que descendre à Honnay-le-Château. Voilà. Voilà. Si vous habitez à la cathédrale.
Non, mais vous ne pouvez pas remonter.
C'est génial.
Après, vous prenez le bus, c'est ça.
Parce que Lyon, c'est quand même une ville qui connaît des bonnes pentes. Aussi.
Relativement plate.
Ouais. Ben, je pense qu'il a quand même essayé à Lyon, donc.
Oui, mais il y a plein d'endroits plats à Lyon, franchement. T'as la colline, après, c'est que plat.
Ah ouais, mais bon. D'accord.
Ah oui, mais.
T'as les Français, sans que c'est des Lyonnais qui sont à l'origine de ce projet.
Oui, vive 4 Lyonnais.
Et on peut l'acheter bientôt ou...
Ben, déjà. Normal, il est né.
Il est en vente.
Voilà.
C'est joli. Ça.
C'est beau. Magnifique.
Et donc, ouais. Comme il. En plus de ses performances, le prix de vente, quand même, il est annoncé comme. Abordable. Voilà.
Très bien.
C'est pas avec mon argent de poche que je vais me le payer bientôt, mais bon. 500 euros quand même.
Ouais, petite somme.
Tout ça pour une roue où tu peux pas remonter franchement en Rodez.
Ouais, mais ça remplace un scooter parfois sur certains. Enfin, c'est un roule scooter, c'est pas cher. Hein.
Bah, le scooter fait.
Ah, il y a une dernière question que j'avais posée là, je pensais à Baptiste, là, je voyais. Est-ce qu'il y a une limite d'âge? Est-ce que dès 13 ans, 12 ans, 8 ans, 9 ans, est-ce que
aussi.
Les grandes sections peuvent le faire?
Oh, je pense que c'est un...
Y a-t-il un permis?
Je sais pas, mais je pense que quand même il y a une limite d'âge, comme c'est quand même un engin qui peut rouler quand même assez vite. Plus vite qu'un vélo.
Par rapport au poids, je pense, peut-être pour l'inclinaison. Ouais. Enfin, je sais pas, je vois là-dessus.
Mais je me suis toujours demandé comment ces trucs ça faisait pour tenir, parce qu'une seule roue, tu tombes généralement.
Non, mais c'est...
Hein. Ouais. Équilibre.
Ouais.
Ben, je fais du monocycle, il n'y a bien qu'une roue.
Oui, mais là, c'est différent, tu peux t'équilibrer, enfin, je vois, ouais. Faut voir.
Tu voudras tester?
Ouais, ben, moi, je vois bien, perso.
Ah, ok.
Je vois bien. S'il y en a un au Fab Lab.
Peut-être. Faudra le construire.
Ouais, je vois bien.
Avec l'imprimante 3D et
bon, je teste.
Hein.
Par contre, je teste pas où en premier.
Moi, je teste,
désolé.
Moi, je teste, je descends les escaliers de la MJCL.
Allez.
Bon, on essaiera de récupérer les plans, alors.
Donc si vous voulez le voir tomber, vous venez à la MJC, il n'y a pas de soucis, il sera là.
Allez, Lucas, t'as un petit sujet, là?
Allez, moi, je vais enchaîner avec une mise à jour de Windows qui a empêché un match de basket. Alors, le rapport n'arrive pas tout de suite, mais en Allemagne, une équipe de seconde division de basket devrait être rétrogradée en Pro B. C'est un mot très compliqué, excusez-moi. Donc, en Pro B, après avoir gagné un match décisif sur le terrain. Mais vu que en fait il y avait un panneau d'affichage pour afficher les scores et les comptabiliser, ce qui est obligatoire là-bas apparemment, et tout était prêt juste avant le match, et à 5 minutes du lancement du match, le truc s'est mis en mise à jour automatique. Donc pendant 20 minutes, ils ont il y a eu la mise à jour, donc ça a été retardé, les retransmissions et tout ont été retardées. Et il faut savoir que la ligue allemande autorise que 15 minutes après, c'est un point en moins, et donc ils sont déclassés quoi. Et ils ont l'autre équipe les a rapportés à la ligue, et du coup ils se sont fait dégager
ils gagnent le match en vrai.
Ils gagnent le match en vrai, mais ils se font quand même déclasser à cause du retard.
Oh la
de 5
vache
minutes. Ah oui, comme
les Allemands ils rigolent pas avec les horaires.
Les Allemands c'est très strict
avec l'Opel. Donc
Astra.
Et donc voilà, c'était ça devait commencer à 19 à ça le match devait commencer à 19h30 et ça s'est lancé à 19h20 donc et ça a commencé à 19h55. Tout à l'heure, on était
trompé
sur l'heure.
C'est horrible, 25 minutes de retard, c'est
25 minutes de retard, c'est vraiment énorme.
Donc erreur fatale, fatale erreur.
Voilà, et depuis le truc qui m'a fait rire, c'est que depuis j'utilise des MacBooks.
Mais l'équipe elle a pas porté plainte contre
Ah si, elle va pouvoir.
Ouais, là, toi, tu m'as fait perdre un point. Tu sors.
Mais porter plainte, je suis même pas sûr, hein, parce que Windows,
c'est
mise à jour automatique. Tu choisis de mettre tes mises à jour automatiques, donc Windows n'y est pour rien. Donc,
c'était quel Windows? Ils disent pas quel Windows c'était?
Le 10.
Bientôt dans votre cours. Baptiste.
Un petit sujet. Oui, pour finir, c'est une niche connectée pour les chiens.
Ah ben, dis donc.
Ben, ils vont adorer ça parce que loin des smartphones et des tablettes, le géant coréen,
le géant de par là,
sud-coréen.
Pour l'instant, ouais, on va dire sud.
Voilà. Ben, il s'intéresse aussi à nos compagnons à quatre pattes.
Tu parles du Samsung, c'est ça?
Samsung.
Oui. Samsung.
Ben, l'idée pour les chiens, ça serait baptisé Dream Dog House, c'est-à-dire.
Niche de rêve pour les
chiens. Oui,
pour
niche
les
de rêve pour les chiens.
J'ai 18 de moyenne en anglais.
C'est ça, ouais. Bon, après, la litière pour chat qui se lave toute seule. Mm-hmm. Eh ben, les chiens, eh ben, ils auront une niche qui est censée correspondre à tous leurs besoins. Donc, ça, je sais pas, mais bon, voilà. Mm-hmm. Il y a quand même 12 architectes qui ont été pris pour faire le design. Elle est composée par un distributeur automatique de croquettes. Un tapis roulant et un bain à remous.
Non,
un bain à remous. Si, genre un spa pour le petit chien.
Ah, le bain à remous, je trouve ça super. Le tapis, tapis roulant, je trouve ça super.
Le bain à remous, mais moi, j'y vais dans la douche à la place de mon chien, franchement, et voilà.
Non, bah oui, bien sûr. Et tu manges les croquettes aussi, vas-y, y'a pas de soucis.
Et après, à ceci, il s'ajoute aussi des petits coussins en velours, une tablette murale, Samsung Tab S, afin de...
Non, mais attends, c'est un T3, là.
Afin de divertir le chien.
C'est-à-dire, comment ça, une tablette?
Ben, une tablette à l'écran.
Mais non, sérieux.
Il y a une photo, bon, ben, il y a des petits films, à ce qui paraît.
Donc, pour distraire le
chien, ouais.
Ton chien, il fait du tapis roulant, et en plus...
J'ai pas de chien, j'ai un chat, moi.
Ah ouais.
Mais après,
il a un bar au mou, un distributeur de croquettes, voilà. Un tapis roulant, mais c'est normal. Une tablette.
Attendez, il y a le point négatif qui arrive. Ah. Par contre, voilà, le revers de la médaille, citation, concerne le prix. Ah. En effet, tout ce luxe coûtera la bagatelle, la simple somme, la modique somme de 28 000 euros.
C'est ça, un T3.
Ben, 28 000 euros pour ton chien, autant d'acheter 28 segouets, quoi.
Tu perds pas le nom, toi.
Non, Segway c'est 500. Donc ça serait le double.
Segway c'est 1000.
C'est le Moon qui vaut 500.
Ah, c'est le petit roux. Ah, vous voilà. Parlez.
Oui.
Et bientôt commercialisé ta petite niche pas chère?
J'en sais rien, mais en tout cas, elle a été présentée durant l'édition 2015 des Croft, le plus grand festival canin au monde. Ben, elle a été conçue par Samsung UK.
D'accord, donc c'est un marché de niche donc.
Des niches, oui. J'avais pas compris la dernière fois, c'était quoi les niches
C'est quand c'est un tout petit marché pour une cible très très petite.
C'est un marché de niches pour les chiens qui habitent dans des niches.
Voilà.
On termine sur ce méga file de Baptiste, au revoir.
Donc voilà, on va se terminer sur ce superbe article. Merci pour la qualité de vos articles.
Merci.
Lucas, Baptiste, Tristan, Théani.
Merci à toi, Guillaume aussi. Hein.
Ouais.
Merci Guillaume.
Bonne semaine à tout le monde et on se retrouve bientôt en CFM.
Les 8 5 et 10 mètres, l'émission qui vous parle des nouvelles technologies sur CFM Rodez.